français parlent aux français. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels.
Les carottes sont cuites, je répète. Les carottes sont cuites, 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 cuites. Le loup est dans la bergerie. Je répète, le loup est dans la bergerie. Le groove perdu va commencer. Je répète, le groove perdu, perdu va commencer, 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 commencer.
Association, université, grand groupe ou collectivité, il y a toujours un capitaine, un équipage et une direction. Et puis parfois, une météo imprévisible ou le besoin de changer de cap. En tant que dirigeant, vous connaissez ces situations qui peuvent révéler les atouts comme les fragilités de votre navire. Et parce que bien gouverner, c'est savoir bien s'entourer, on a parfois besoin d'une aide extérieure. En faisant appel à un consultant TGS France, c'est un expert en stratégie et organisation qui viendra à votre rencontre pour écouter votre problématique en toute confidentialité et vous proposer une démarche d'analyse sur mesure. Le diagnostic que nous allons réaliser vous donnera une vision claire et objective de la santé de votre entreprise, soulignant les causes de vos difficultés éventuelles et les leviers de performance. Chacun des organes vitaux de votre entreprise sera examiné selon une méthode éprouvée et ajustée à votre contexte. Nous nous appuyons sur des outils concrets tels que l'analyse documentaire pour étudier ce que révèlent vos chiffres, vos données ou les éléments de stratégie existants. Nous pouvons écouter la voix des clients, interroger leur expérience avec votre entreprise, écouter les dirigeants et managers au travers d'interviews confidentielles. Nous pouvons autant réaliser une enquête auprès des collaborateurs, qu'observer le travail en équipe ou vérifier l'efficacité de certains processus. Grâce à ces différents examens, vous serez en mesure de comprendre les atouts et les fragilités de votre entreprise dans sa capacité d'alignement, son excellence opérationnelle et sa capacité d'adaptation. Le diagnostic que vous livrera votre consultant sera précis, sans concession. Il y révélera certaines réalités de votre entreprise, comme s'il en faisait partie. Enfin, il vous fournira des conseils et des préconisations à l'appui desquels vous pourrez agir positivement. Et après ? Après, si vous en avez besoin, nous sommes toujours là pour accompagner votre changement, de la définition de votre stratégie à sa mise en œuvre sur le terrain. TGS France, pensée globale et durable.
Ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des ports. Il naviguait en paix de peinard sur la grand-mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Ces fluctuates nettes mélogitures, c'était pas de la littérature, n'en déplaise aux jeteurs de sort, aux jeteurs de sort. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de port, des copains d'abord. C'était pas des amis de luxe, des petits castors et Pollux, des gens de Sodome et Gomorre, Sodome et Gomorre. C'était pas des amis choisis par Montaigne et la Boétie, sur le ventre ils se tapaient fort, les copains d'abord. C'était pas des anges non plus, l'évangile il l'avait pas lu, mais il s'aimait toute voile dehors, toute voile dehors. Rambière, Paul et compagnie, c'était leur seule litanie, leur credo, leur confiteor, aux copains d'abord. Au moindre coup de Trafalgar, c'est l'amitié qui prenait le cas, c'est elle qui leur montrait le nord, leur montrait le nord. Et quand ils étaient en détresse, que leurs bras lançaient des SOS, on aurait dit de sémaphore, les copains d'abord.
McKinsey, c'est une success story à l'américaine. Chicago, 1926. Un professeur de comptabilité fonde un cabinet de conseil. Surdoué en mathématiques, il estime que les chiffres ne doivent pas servir uniquement à dresser des bilans comptables, mais qu'ils peuvent aussi prédire l'avenir d'une entreprise. En France, les bureaux de McKinsey sont sur les Champs-Élysées. Une adresse prestigieuse, non loin des lieux de pouvoir. Il faut dire que certains de ses dirigeants connaissent très bien Emmanuel Macron.
Comment pouvez-vous justifier ce recours accru à des cabinets privés dans la conduite des politiques publiques au service de l'intérêt général?
Quand on fait appel au privé, on dit pourquoi le public ne fait pas. Et quand on fait appel aux deux, c'est où on fait appel trop à l'un, trop à l'autre. Moi, je ne sais plus, monsieur le député. Je peux vous dire, c'est qu'il y a des règles. Ces règles sont évidemment respectées, y compris les règles de transparence.
Nous ne servons pas non plus les partis ou les personnalités politiques. C'est interdit dans nos statuts.
C'est l'histoire de près d'un demi-million d'euros d'argent public qui est allé dans les poches d'une firme américaine sans que personne ne sache vraiment pourquoi. Une affaire de privatisation de l'action publique de plus pendant le quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors comment et pourquoi l'État français a-t-il versé plus de 496 000 euros à un puissant groupe privé américain? Qu'est-ce que cela révèle des relations de ce gouvernement avec des cabinets de conseil privés? Y a-t-il des conflits d'intérêts? La polémique a été relancée avec cette séquence, extraite d'une audition de la commission d'enquête du Sénat.
Vous avez obtenu un contrat d'un montant de 496 800 euros pour, je cite, « évaluer les évolutions du métier d'enseignant ». Vous pouvez nous dire à quoi aboutit cette mission ?
La rapporteure interroge des responsables de McKinsey, un très gros cabinet de conseil américain, qui a reçu une très grosse somme d'argent de la part de l'État français. Et le but de cette commission, c'est de comprendre où est passé cet argent et à quoi il a servi. De longues minutes pendant lesquelles la rapporteure va essayer d'en savoir plus.
Il y avait des responsables, des enseignants, qui collaboraient.
Oui, madame la rapporteure, mais je n'ai pas directement piloté ces travaux. Et nous travaillons maintenant, madame la rapporteure, depuis une vingtaine d'années aussi, sur l'analyse de l'évolution des systèmes d'éducation.
Oui, je trouve que cette réponse est un peu imprécise.
Elle va demander des précisions et va être confrontée à beaucoup de blabla que je vais vous épargner ici, sinon cette vidéo va durer 4 heures. Mais évaluer les missions du métier d'enseignant, ça veut dire quoi au juste? Et surtout, qu'est-ce qui justifie l'externalisation de ses compétences à des cabinets privés? C'est bien ce qui met McKinsey et les membres du gouvernement dans l'embarras. Amélie de Montchalin, ministre de la fonction publique, explique que cela devait alimenter un important travail du ministre de l'Éducation, qui devait aboutir en avril 2020 à un colloque sur l'avenir du métier d'enseignant. Sauf que, pas de bol, ce colloque a été annulé à cause de la crise sanitaire. Et pas de bol non plus, il n'a jamais été reprogrammé. La ministre précise tout de même que ce travail a été utilisé pour réaliser un rapport sur le professeur du 21e siècle, présenté au Collège de France en décembre 2021. L'occasion enfin de rentabiliser cet investissement? Pas vraiment, à en croire l'auteur principal de ce document de 120 pages, Yann Algan, professeur d'économie et doyen de l'École d'affaires publiques de Sciences Po, qui explique à France Info « Il est issu de mes travaux de recherche, notamment sur les problématiques de coopération des méthodes pédagogiques et des travaux de mes confrères, comme Stanislas Dehaene, sur les bénéfices de l'éducation ». Dans la dernière partie, qui présente une analyse comparative des modes de gouvernance, Yann Algan a bien repris quelques graphiques produits par McKinsey dans son document, mais cela représente un pourcentage tout à fait négligeable du rapport, estime-t-il. Mais alors, à quoi a bien pu servir cet argent? Mystère et boule de gomme.
Dans chaque collège du pays, les élèves de chaque classe seront répartis en trois groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3, en fonction de leur niveau en français et en mathématiques.
Il fallait pas faire appel à l'honneur de Jean. qui n'ont pas d'honneur du tout.
On fait bloc face au choc des savoirs qui nous cassent l'école. Ensemble on la répare.
On dit stop
aux casseurs en costard. La lutte c'est classe, provoque et tu vas voir.
On fait bloc
face au choc des savoirs qui nous cassent l'école. Ensemble on la répare.
On dit stop
aux casseurs en costard. Dans les starting blocks, Paris pour écrire l'histoire.
Ça devient tragique, il faut qu'on prenne les choses en main. Sur les bancs de l'école publique, ils parlent de trier nos gamins. Compte de niveau, c'est couru d'avance. La mixité dans le caniveau, c'est l'inégalité des chances. Premier de cordée, atteint la hausse, c'est béloupé. Enivré au sommet, ne font que claironner. Théorie du ruissellement, totalement erronée. Les derniers seront les premiers de corvée. La Macronie ne cache même plus sa perfidie. Tyrannie de l'économie, elle met l'éducation sous perfusion. Dans nos visages, elle crache son ironie. Parents, profs, élèves, ensemble faut qu'on s'élève, faut faire fusion. Marre de cette énième provocation du pouvoir. Faut qu'on bloque ton système et ton choc des savoirs. Remballe ta réforme en carton, tes vieilles solutions. Ton uniforme, ta carotte et ton bâton.
On fait bloc face au choc des savoirs. Tu nous casses l'école, ensemble on la répare.
On dit stop
aux casseurs en costard. La lutte c'est classe, provoque et tu vas voir.
On fait bloc
face au choc des savoirs. Tu nous casses l'école, ensemble on la répare.
On dit stop
casseurs en costard. Dans les starting blocks, Paris pour écrire l'histoire.
Peuple d'ignorants ou peuple instruit éclairé. Pour le pouvoir des banquiers, lequel représente un danger. L'éducation ou l'abrutissement des masses. Ils ont choisi la sélection des classes. Par niveau faible ou fort, veulent en faire des rivaux. Faire du tort à nos mots, puis les faire dériver. Donne du corps à mes mots en exposeur de rivets. Donne de la force à nos profs pour qu'ils en soient délivrés. Du choc des savoirs et autres calamités. Alors où le budget militaire est devenu faramineux. Que les dividendes explosent, ils continuent de nous baratiner. Professeurs, élèves avancent en terrain miné.
On fait bloc
face au cœur de métal, cette réforme est l'État. Démontre la violence de l'État. Le poing sur la table, c'est nos voix qui s'élèvent.
L'objectif,
protéger le destin des élèves.
On fait bloc face au choc des savoirs. Tu nous casses l'école, ensemble on la répare.
On dit stop
aux casseurs en costard. La lutte c'est classe, provoque et tu vas voir.
Et ces affaires pour le moins étranges de versement d'argent public à des cabinets de conseil privés ne sont pas nouvelles. En pleine pandémie, entre mars 2020 et février 2021, le ministère de la Santé a passé pas moins de 28 commandes auprès de 7 cabinets pour un coût de 11 350 000 euros. Sur la période 2018-2020, les dépenses de conseil de l'ensemble des ministères se sont élevées à une moyenne annuelle de 140 millions d'euros, selon les chiffres de son propre ministère.
Moi, je ne verserai jamais dans le populisme, qui consisterait à dire
que c'est du populisme.
Jamais, au grand jamais, l'État n'aurait pas besoin d'aller chercher une vision externe, n'aurait pas besoin d'aller chercher une compétence ponctuelle qu'il n'a pas.
Amélie de Montchalin part donc du principe qu'il y a de nombreuses compétences que l'État n'a pas. Des compétences qui coûtent 140 millions d'euros par an, donc. Mais alors, à quoi servent donc ces cabinets? Qu'apportent-ils exactement de si précieux que l'État ne puisse pas faire lui-même? Karim Tajeddine, le directeur associé de McKinsey, l'explique ainsi.
Nous intervenons essentiellement dans deux cas de figure. En amont de la prise de décision, pour aider à instruire celle-ci grâce à des travaux d'analyse factuelle, et en aval de la décision pour aider les responsables publics dans l'exécution.
Seulement, on peut s'imaginer qu'il est plus facile de faire affaire quand on connaît bien les clients. Une enquête édifiante, publiée dans Le Monde en février dernier, soulignait la proximité troublante d'Emmanuel Macron et son entourage avec McKinsey dans de nombreux autres dossiers. Cette enquête, dont je vous conseille fortement la lecture, racontait déjà l'opacité, le silence, le pouvoir, l'influence. Impossible de savoir qui fait quoi, comment, en ce qui concerne ses contrats avec McKinsey. Pour Frédéric Pierru, spécialiste des politiques de santé publique, sociologue et chercheur au CNRS, tout ceci n'est que le résultat d'une porosité grandissante entre l'élite de la haute fonction publique et l'élite du secteur privé. Et effectivement, certains responsables passent du privé au public et retournent dans le privé.
40% des patrons du CAC 40 et des membres du conseil d'administration du CAC 40 sont des hauts fonctionnaires. Un jour, on va s'en rendre compte.
Comme par exemple certains consultants de McKinsey, justement, après l'élection d'Emmanuel Macron. L'un devient directeur adjoint du cabinet du secrétaire d'État au numérique, un autre chef du pôle projet à La République En Marche, ou encore l'exemple d'Éric Labbaye, un dirigeant de McKinsey qui, en août 2018, est nommé par Emmanuel Macron président de Polytechnique. Autant vous dire que ces liens, maintes fois rapportés dans la presse, ont laissé la rapporteure perplexe. Et quand elle a évoqué la participation des salariés de McKinsey à la campagne d'Emmanuel Macron en 2017, Karim Tajeddine a indiqué que ses échanges avec l'équipe de campagne du candidat à partir de son mail professionnel constituaient une erreur qui a donné lieu à une suite interne.
Non, j'ai bien entendu ce que vous avez dit ce matin aussi. C'est-à-dire que c'était une erreur. C'est quand même une grosse erreur. 496 800 euros, c'est l'équivalent de 1 600 purificateurs d'air dans 1 600 restaurants scolaires, et c'est l'équivalent d'un million de masques FFP2 qu'attendent dans l'urgence les enseignants, comme l'a promis le ministre Blanquer, puisqu'il en a promis 5%, donc nous serions à 20% de la promesse.
Suite au scandale, Amélie de Montchalin a annoncé dans une interview à l'Obs que l'État français ferait moins appel à des cabinets de conseil en 2022. Nous avons décidé de faire baisser en 2022 de 15% au moins les dépenses sur les conseils en stratégie et en organisation pour tous les ministères, explique la ministre, parce que nous sommes convaincus qu'en la matière, l'État a la capacité de faire avec les ressources et les compétences dont il dispose. Et à Blast, ça nous laisse un peu perplexes. Parce que si l'État avait la capacité de faire avec les ressources et les compétences dont il dispose, comme le dit Amélie de Montchalin, on se demande pourquoi, en premier lieu, il a fait appel aussi massivement à des cabinets de conseil privés. De manière plus globale, cette affaire d'appel à des cabinets de conseil privés pose la question du lien entre le public et le privé. Que le public doive faire appel au privé qui serait plus compétent, c'est une doctrine économique qui a été massivement appliquée par le Royaume-Uni. Entre 2002 et 2007, l'État britannique a signé 55 contrats avec le privé. Le but, faire financer un investissement public, par exemple la construction d'un hôpital ou d'une école, par le secteur privé. Seulement, les emprunts du secteur privé sont toujours plus chers que ceux opérés par les gouvernements. Résultat, la construction d'écoles par le privé a coûté en moyenne 40% de plus que par le service public. Celle des hôpitaux a été 70% plus élevée, selon les calculs du Trésor britannique datant de 2011.
Du parc d'intimation, malfaiteur, MK et AP 113, à ne pas confondre avec le 113. Association association de malfaiteurs. Association de bienfaiteurs, mission de plus bouger, dit malheur et dit un gros beurre. Combinaison, l'éducation de malfaiteurs, texture, voilà, qu'un fruit. Par tous les mal nécessaires, par la mort et une
association, combinaison, l'éducation de malfaiteurs, textuel sur la version 113. Il y a association de malfaiteurs, trois étrangers au crâne rasé, deux négros et un beurre, les organisateurs. En les choisis vitrine le secteur, pas les imitateurs, tous ceux qui t'accueillent au Winchester. Les élévateurs de conscience, mais surtout pas les meneurs. On mène une vie de malheur, comme beaucoup de nos frères et sœurs. Les superviseurs, exportateurs d'un son tueur, les créateurs, mais utilisateurs du sampleur, les réalisateurs, interprètes et auteurs, toute une jeunesse, le moteur, les initiateurs d'une attitude pro-négro, pro-beurre. 9-8, on prend de l'ampleur pour les imposteurs. Ensuite par les inspecteurs, avec la police, en accord avec mes complices. On attend le moment propice afin qu'on sombre, on agisse. Et à 7h, je dédicace à Raflani, pas le lecteur. Puis je place un foc pour tous les monteurs, les jacteurs, les flatteurs qui voudraient devenir nos instructeurs. Mais même sur grand écran, le bien s'en retire vainqueur. Opérateur, animateur et sélecteur, Rinka et AP 113, ça vient de vitri, soyez acteurs de l'ascension de nos couleurs. Pour que mon trou s'élève, faut plus de trêve, on prend de la hauteur. Les séducteurs, tous vaccinés et majeurs. Protège ta raclée, ta zinco et même ta sister. Association de malfaiteurs, trois étrangers au crâne rasé, deux négros et un beurre. Un KIP, ça vient de la rue, ça vient de Patrick, Jerry James. Représente pour la mafia africaine, on enlève le glaive. Combinaison, unification de malfaiteurs, textuel sur la version 13. Idéal, radical comme les balles, ou plutôt comme une droite, suivie d'un chassé frontal.
J'annonce le cri de guerre, y'a pas feu, y'a pas drap. Association de malfrats, Jerry James, AIP et Rinka, c'est bouillant. Pour l'État, encore le 1-1-3. Je viens de mon ghetto français, représentant soldat. Rien que des lyrics explicites, je t'avertis du danger. Tu peux pas t'opposer, pas de nous clasher. Sur ma tête, et sois sûr qu'on te rendra la vie dure. L'agression sera courte, cousin, pire qu'une bavure. Tu seras contraint d'encaisser, couper sur couper. L'impact sera tellement hardcore que ton esprit va disjoncter. Dans le clan, le 113 clan, DMC authentique. Pas de suceur de beat, lyrics explicites interdit au public. Moi je revendique les murs de Tessie. Respect au mien, posté sur bitume pour faire un. Vitry, Orléans, Charlie, une association est faite. Malfaiteur organisé, y'a même des coupeurs de tête. Bombe lyricale, attaque verbale, ça va faire mal. Trois malfrats sur une mission, l'insta animal. C'était AP, Freestyle Raka, je te l'ai déjà dit. Clash pas sur toute cette combinaison d'MC. Ouais, clash pas sur toute cette combinaison d'MC. Du rôle 13 au 2001 sous. Si tu veux pas dire que tu crèves, tranchant comme un glaive, une cas du 113, j'arrose tous les roses. Je me pose, y'aura pas de crève. Viens me frotter à une vraie pourriture. Le ressortissant décidé HLM qui pose sa signature. On balance la sauce, vitrier Orly en la sauce. Hausse le volume, mec, et ne discute pas les ordres du boss. On est paré pour une expédition punitive. On fait tourner le mic comme un spliff pour fumer nos cibles. Ils ne savent pas que notre association est à craindre. Les couleurs du drapeau français avec nous vont déteindre. La moindre erreur de ta part pourrait me pousser à t'éteindre. Je te garantis que ce sera fait. Si nos lois, tu veux les enfreindre. Ose venir franchir notre seuil. On t'envoie dans un cercueil. Car accouche là dans ta gueule, c'est comme ça qu'on t'accueille. Je t'annonce déjà ce qui sera écrit sur ta pierre tombale. Exécuté par Rimka, soupçonné d'être un trou de balle. Du cran, c'est ce qu'il te faut pour t'approcher de mes rangs. Il faut une assurance vie avant d'entrer dans la cour des grands. C'est toujours chiant, je te baise, je réside toujours au 113. Rappelle 113, si t'es pas bien 113.
La rime au crime, un seul pas, et on l'a déjà franchi. Ici, trois lascars de Tessie s'associent. Ainsi, si tu testes les veines, ainsi s'achève ce freestyle racaille tranchant comme de la rime au crime, un seul pas, et on l'a déjà franchi. Ici, trois lascars de Tessie s'associent. Ainsi, si tu testes les veines, ainsi s'achève ce freestyle racaille tranchant comme le glen. Il y a association de malfaiteurs.
Tu crèves, tranchant comme un glaive, Rimka du 113. Il y a association de malfaiteurs.
Maintenant, sur l'affaire des poursuites, McKinsey, nous avons un cabinet qui se présente comme un cabinet patriote, qui vient au secours du gouvernement français dans la crise sanitaire que nous avons connue, qui vient apporter ses moyens, éventuellement gratuitement, comme d'autres cabinets. D'ailleurs, il n'est pas le seul au début. Puis ensuite, vous avez 18 commandes qui suivent, bien évidemment, avec des montants, je crois que ça doit être de l'ordre de 13 millions, mais vous retrouverez les chiffres pour le seul McKinsey, puisque c'est 41 millions en tout pour la crise sanitaire. Donc un cabinet qui se présente comme un recours patriotique, en quelque sorte, dans son intervention, et qui nous dit, texto, bien sûr, nous sommes une société de droit français, nous payons tous nos salaires en France et nous payons l'impôt sur les sociétés en France. Bon, nous avons examiné cette situation sur pièce et sur place avec Madame la rapporteure. Il apparaît que depuis 10 ans, cette société n'a pas payé l'impôt sur les sociétés et elle ne l'a pas payé, c'est une nuance importante, parce qu'elle a systématiquement produit des résultats fiscaux déficitaires depuis 10 ans. Vous pouvez aussi avoir des sociétés qui ne paient pas l'impôt sur les sociétés, mais qui ont un résultat fiscal positif, mais qui se trouvent minorés par différents crédits d'impôt, notamment le crédit impôt recherche, que vous avez dû connaître, et puis le CICE, le crédit compétitivité, qui n'existe plus maintenant. Ça aurait pu aussi expliquer les choses. Ce n'est pas le cas. Dans ce cas-là, c'est systématiquement du résultat fiscal négatif. Tout ça, c'est lié... Et là, c'est peut-être un peu le membre de la commission des finances qui parle, mais à la mécanique des prix de transfert. En fait, c'est ce que refacture la maison mère aux États-Unis à la succursale en France. C'est évidemment prévu par les règles du commerce international de l'OCDE. Le tout, c'est de savoir si c'est appliqué loyalement et validé ou pas par l'administration française. Ça, maintenant, c'est à la Direction générale des finances publiques de le dire. Je pense qu'elle s'occupera de cette question. Elle a dû commencer à s'en occuper. Mais en tout cas, nous, ce qui nous a choqué, c'est le fait que M. Tajeddine nous dise en audition « Nous payons l'impôt sur les sociétés en France » et que quand on regarde sur les 10 dernières années, cet impôt est à zéro. Et il est à zéro parce que le bénéfice fiscal est systématiquement le résultat fiscal, pardon, est systématiquement négatif. Voilà. Donc nous allons en référer au procureur de la République et ce sera à lui d'apprécier la situation.
Vos impôts,
payer vos impôts. Why, why, why.
Vos impôts.
Cabinet de conseil sur les politiques publiques. Cette question est devenue au cœur de ce que certains appellent un scandale d'État, d'autres tout simplement une pratique courante dans les démocraties ou bien encore une manière de rendre plus efficaces certaines administrations. Alors pour vous donner les pièces du dossier, pour que vous puissiez vous faire votre idée, nous sommes en compagnie de Caroline Michel-Aguirre. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes journaliste à l'Obs et vous avez publié le livre par lequel cette affaire a démarré. Ce livre, il s'intitule « Les infiltrés, comment les cabinets de conseil ont pris le contrôle de l'État » et vous l'avez écrit avec Mathieu Aron, il est publié chez Alary Éditions. Et en face de vous, Mathieu Courtecuisse, bonjour. Vous êtes président de Syntec. Alors Syntec, c'est le syndicat des professionnels du conseil, président et fondateur du cabinet SIA Partner, donc vous êtes vous-même à la tête d'un cabinet de conseil. Et justement, la première question que j'aimerais vous poser, Mathieu Courtecuisse, pour ceux qui ne sont pas familiers de cet univers, qu'est-ce qu'un cabinet de conseil, à quoi ça sert ?
Un cabinet de conseil, ça sert à d'abord, c'est une dépense d'investissement pour transformer les organisations, définir des stratégies d'entreprise ou d'organisation. Donc, nous sommes des champions de la transformation et on aide à déployer les stratégies du changement.
Stratégie du changement. Mais alors, ces stratégies du changement, elles sont aujourd'hui dirigées dans les cabinets de conseil par des personnes qui en sont les spécialistes, lit-on. Mais comment peut-on être spécialiste de choses dont on ne connaît pas les détails pour ne pas l'avoir exercé soi-même ? Je vous donne un exemple. Ce qui étonne dans le recours au cabinet de conseil, c'est par exemple les missions qui ont été faites dans l'éducation nationale. Au lieu de prendre des consultants, pourquoi ne pas demander tout simplement aux enseignants comment ils envisagent l'évolution de leur métier ?
Très souvent, on formule les stratégies en co-construisant ces éléments, c'est-à-dire que parfois on a des expertises à l'intérieur de nos cabinets de conseil, parfois c'est moins le cas. Il s'agit parfois de mettre aussi juste autour de la table des personnes qui se connaissent bien, qui ont un certain nombre d'idées, mais qui ont du mal à dialoguer ensemble et à formaliser ces éléments stratégiques. Donc on a plusieurs éléments qui nous permettent de gamifier en fait nos interventions. De gamifier.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire qu'en fait, ça va de l'expérience très, très liée à une expertise technique, par exemple dans la logistique, par exemple dans un certain nombre de corps de métier. Et puis à l'inverse, on peut aussi tout simplement créer des dynamiques collectives, de l'engagement dans la conduite de la transformation d'une organisation.
Mais justement, c'est ça qui étonne. Comment dans une société qui appelle de plus en plus à avoir recours à des compétences particulières, comment prétendre être généraliste?
La plupart des cabinets de conseil aujourd'hui ne sont pas généralistes. En général, ils sont plurispécialistes, c'est-à-dire qu'ils ont, selon la taille de leurs organisations, parce qu'on a vraiment tout type de taille de cabinet de conseil, ça peut aller de l'expert indépendant à des organisations qui comptent plusieurs milliers d'employés. Et donc, selon les contextes, on va apporter différentes natures d'expertise. Mais la conduite de la transformation, c'est une expertise. D'ailleurs, il y a énormément de recherches académiques. Et d'ailleurs, la France est un des pays les plus avancés en matière de recherche académique, en matière de management, numéro un en Europe et parmi les premiers dans le monde.
Combien sont payés les consultants? Parce que là aussi, c'est quelque chose qui étonne. Alors, il y a des sommes extrêmement importantes qui sont évoquées dans le livre de Caroline Michel-Aguirre et de Mathieu Aron, Les Infiltrés. On évoque des prix de journée de l'ordre de 1000, 1500, 2000 euros. Les enseignants, je crois, ne sont pas payés 2000 euros par jour. Comment expliquer de telles sommes?
C'est lié à la valeur ajoutée perçue par nos clients. En France, effectivement, le taux moyen qui est constaté, c'est autour de 1200-1300 euros, ce qui est bien inférieur d'ailleurs à beaucoup de marchés. Moi, mon entreprise est présente dans 18 pays et je peux vous indiquer que la France est probablement un des pays où les taux journaliers sont les plus faibles.
Que jamais il ne trouva. Jack le manager rencontra Nick le coq dans la fosse à Purin d'un camping municipal à la ferme dans les Alpes. À le voir ainsi tremper ses petites pattes et son bec de volaille frénétique dans la vase, à l'affût de quelques victuailles, laissées là par mégarde par des poules surfriquées, Jack se dit qu'il avait affaire au coq de combat le plus malheureux que la terre ait jamais porté. Mais il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. J'aime ton style un peu pouilleux, ton regard plein d'aigreur. Si tu veux, je peux devenir ton chicken manager. C'est pas du catch, du sinoche, c'est du fight à la dure. Et la devise, pas de pitié, ta meilleure armure. Les coups bas sont conseillés et ton honneur, tu le ranges. Tu, l'obsession qui te ronge. Pas un stratagème qui dit, aime ton ennemi. Je veux lire de la haine dans tes yeux jaunis. Le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Puissant, rapide, fluide et léger, Nick est un véritable enfoiré. Attaquer l'ennemi à terre par derrière fait partie de ses coups de vis préférés. Puissant, rapide, fluide et léger, Nick est un véritable enfoiré. Attaquer l'ennemi à terre par derrière fait partie de ses coups de vis préférés. Entraîné au speed bag, à la corde à sauter, à déchiqueter des mannequins de coq en plastique, Jack motivait Nick, lui donnait la réplique, lui promettait de la dope, des femmes et du flic. Son premier combat dura 17 secondes. Il tua son adversaire en deux coups de bec, un coup d'ongle et puis, comme pour combler la foule en liesse, le dévora tout cru jusqu'au sol il laisse. Le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire. Il vit en lui le potentiel d'un géant, redoutable coq à la ville comme à l'écran. Hercule avec au bout des pattes deux énormes serres, l'expert de l'attaque dorsale de l'adversaire.
S'en suivit une success story de blockbuster. Des combats annulés tant les adversaires avaient peur. Rail de coke, pipe de crack, bimbo, Pontiac. Dick et Jack profitaient de leur vie rêvée de Mac. Mais le succès n'est pas toujours l'allié des amis. Nick ne tarda pas à faire enfler ses chevilles. Il voulait prouver à son maître qu'il avait bien appris ses déclinaisons de félonie. Il fit semblant de croire qu'un pélican traversait les airs. Jack se retourna, le regard tendu vers le ciel, mais c'est derrière lui qu'était l'oiseau, lui perforant les vertèbres à grands coups de bec dans le dos. Jack mourut et Nick, qui voulait l'Élysée, deviendra le président de tous les Français.
Question qui se pose, Caroline Michel Aguirre, au sujet donc de l'utilisation de ces cabinets de conseil, c'est le fait que finalement, ceux-ci sont là pour, je vais le dire avec un terme caricatural, mais on va ensuite l'affiner, pour essayer de dégraisser l'État, et c'est ce que vous dites, Caroline Michel Aguirre, alors même qu'il dégraisse l'État, eh bien, il laisse des places vacantes, et c'est la raison pour laquelle l'État est incité à consommer encore plus de prestations de conseil. Expliquez-nous ce que cela signifie concrètement.
Oui, c'est ce que les fonctionnaires appellent le paradoxe du serpent. Encore une fois, il faut revenir à la décision politique. La décision politique de faire appel à un cabinet de conseil, ça peut être parfois parce qu'on a besoin d'une expertise, en effet, extérieure, qu'on n'a pas. Ça peut être parce qu'on a besoin d'un avis extérieur ou qu'on n'arrive pas à imposer une décision dans son organisation. Mais très souvent, très souvent, puisque la promesse des cabinets, c'est le changement, c'est pour réduire les coûts. C'est pour, comme je vous disais tout à l'heure, faire mieux avec moins. Et ça dure depuis 15 ans, puisque ce phénomène en France a commencé avec Nicolas Sarkozy et la révision générale des politiques publiques et cette diminution du nombre de fonctionnaires qui a commencé il y a 15 ans, avec une diminution de 180 000 fonctionnaires, s'est faite avec l'appui des cabinets de conseil.
Alors apparemment avec un pic de dépenses d'après ce que l'on peut lire dans l'opinion aux environs de 2008 où là...
Alors ça c'est Emmanuel Macron qui l'a dit, moi j'aimerais bien savoir où il a eu son chiffre puisque nous, comme je vous le disais tout à l'heure, l'État nous a dit lui-même qu'il n'avait pas de chiffre agrégé autour de notre enquête, raison pour laquelle on se dispute encore ce matin sur le chiffre parce qu'en vrai, si le chiffre
on va pas
reparler, on serait...
Non, mais on les a en tout cas.
Attendez. Donc en fait, le chiffre de 2010, on ne sait pas, en vrai, c'est... puisque on ne sait pas.
En tout cas, vous n'êtes pas d'accord sur le chiffre. Voilà, on peut dire ça comme ça.
Non, mais c'est donc facile. Le paradoxe du serpent, excusez-moi, c'est l'idée que les cabinets de conseil sont appelés pour faire des coupes budgétaires, ce qui fait des failles, évidemment, des failles de compétences et des failles d'endroits où on n'a plus de fonctionnaires. Et face à cela, les politiques rappellent les cabinets de conseil pour boucher ces failles. Pour quelle raison ? Parce qu'il existe une règle comptable, un petit peu technique, qui s'appelle la fongibilité asymétrique, qui fait que quand vous avez un budget, vous ne pouvez pas l'utiliser pour faire un CDD, un fonctionnaire, et encore moins un CDI, mais dans tous les cas, vous pouvez l'utiliser pour acheter une prestation.
C'est-à-dire que certaines sommes sont réservées pour acheter tel ou tel type de service, et donc il y a des sommes qui sont fléchées vers les cabinets de conseil.
Toutes les économies que vous faites, que vous pouvez faire, elles peuvent être utilisées pour les cabinets de conseil. Si bien qu'on arrive à des situations complètement ubuesques, qu'on ne peut pas embaucher un CDD, mais on peut garder des consultants plusieurs mois, plusieurs années, à des taux horaires, comme on l'a vu, qui sont 5 fois minimum plus élevé que ceux du salaire d'un.
Si je dégaine, est-ce que tu aides pour la cause, mec? Pas d'intérêt sur aucun des frais que tu me devrais. Le cash misère, c'est la banque centrale. Je m'évade comme Redouane si c'est fiscal. Je démarre mon étoile, je sais ce qui se passe. Développement personnel, mais n'hésite pas. On me libère si je crée 1000 tafs. J'appelle échelon cabinet de conseil.
veux tout contrôler comme McKinsey. Si vous êtes chaud, je commence par le streetwear. J'ai bien charbonné cet hiver. Je bibille l'appareil auditif, après ça la belle joue. Et à chaque fois je suis précis, un vrai gars. Tu fais le tactile, j'envoie le point de Pégase. J'arrive à bout de patience, je vise pas les pattes que les vacances. Je suis ivre de ça, stratégie pour que ça rentre pile dans le time, je suis en avance. Netflix me retarde, tiens la cadence. Belle dit, elle me calme, j'ai mon avance. Mes bigres, je rame pour le respect. Le bolide allemand, je fais le pas de danse. Mes fichtres, j'ai mal. Si je remplis mon beat, des mondes pourront plus y entrer. Il y a des types, si je les vois, ils reposent en paix. T'envis Midji et leur train de vie hanté. J'ai vu des quiches, t'as mon esprit est hanté. Je vais reprendre la guitare, ça sied à mon ombre. Les moins fébriles s'associent à mon nom. Toi c'est gaulerie, t'as plus la tête à ton oncle. Anthropophagie de MC, avec le foie je fais de la divination. Touche donc du bois pour la divine action. On dit laisse un message, c'est ça la création. Je me hâte, je fais mes bagages. Dans le crâne, je suis déjà là-bas. Un jour je me lèverai moins tard que si le monde était déjà à moi. Je vois des tueurs, je vois des lutteurs, je vois des lueurs. Quand je muse, 7 plus 1 heure. Et je me réveille en sueur comme Wolverine, je plante mes grosses griffes. 3% m'accueille, je vais skill l'autre rip fuck, je veux une autre vie. Que des acteurs, que des comédies chantent pour ne pas les ouïr. Je vois des tueurs, tueurs, je vois des lutteurs, que des acteurs, je vois des tueurs, je vois des lutteurs. Pour ne pas les ouïr.
Alors c'est la critique qui vous est adressée, je crois, de manière audible et explicite, Caroline Michel-Aguirre, faisant de ce livre un brûlot anti-macroniste. Que diriez-vous ?
Mais seules les personnes qui ne l'ont pas lu peuvent dire que c'est un pamphlet. Mais je pense qu'on raconte bien dans le livre que c'est un phénomène qui n'est pas né avec Emmanuel Macron. En effet, j'écris tout un chapitre là-dessus. C'est né avec Nicolas Sarkozy et c'est un mouvement mondial, ce qui est très intéressant, qui a commencé dans les années 90 en Angleterre et aux États-Unis. Avec cette idée, vous vous souvenez peut-être de cette phrase de Ronald Reagan qui disait « La solution à notre problème, ça n'est pas l'État, le problème c'est l'État ». Et il y a cette idée qui s'est infusée que l'État, que les fonctionnaires ne pouvaient pas créer de nouvelles choses, n'étaient pas créatifs, qu'ils étaient archaïques, qu'ils étaient poussiéreux, qu'ils n'étaient là que pour reproduire ce qu'ils savaient déjà faire, qu'ils étaient pris par des corporatismes. Et j'ai envie de vous dire, pourquoi pas. Le problème, c'est qu'en France, nous avons 5 millions de fonctionnaires, ce qui fait une énorme différence avec ce que vivent les autres pays, comme l'Allemagne ou les États-Unis, qui n'ont pas une fonction d'État. Ils n'ont pas des énarques extrêmement brillants, qui font les mêmes études que les gens qui partent dans les cabinets de conseil. Ils n'ont pas forcément des cours des comptes, des corps d'inspection aussi forts. Et en vérité, dans l'État français tel qu'il a été pensé à l'origine, les consultants de l'État, ce sont les magistrats de la Cour des comptes et ce sont les inspections, les inspecteurs des finances. Donc, ce qui pose problème, le débat, tant qu'on le laisse placer sur pour ou contre les cabinets de conseil, il est assez stérile. La vraie question, c'est celle de l'efficacité au sein de l'État et des doublons. Est-ce qu'aujourd'hui, les consultants doublonnent avec les très hauts fonctionnaires qu'on a dans notre fonction
publique ?
Alors,
justement, Mathieu Courtecuisse, pour le dire peut-être un peu différemment, vous considérez que le livre de ma consoeur est anti-macroniste, est-ce qu'on ne pourrait pas soupçonner les cabinets de conseil finalement d'œuvrer au dégraissement de l'État, à l'amenuisement de ses forces, bref, d'avoir une idéologie sous-jacente?
Non, pas du tout. Encore une fois, on est là pour accompagner nos clients dans leur transformation. Donc selon les impulsions politiques qui peuvent être en place, que ce soit dans une entreprise ou une organisation, eh bien nous, on va suivre le mouvement. Si demain, il y a un nouveau pouvoir qui décide de, je ne sais pas, d'investir davantage, par exemple, dans les forces de police, eh bien, à ce moment-là, nous accompagnerons, le cas échéant, s'il y a un besoin, la modernisation des forces de police.
Et qui proteste.
Je suis de toutes les patries, je suis de toutes les coteries, je suis le roi des convertis. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui promettent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté. Je crie vive les institutions, je crie vive la collaboration. Mais jamais je ne conteste, ni revendique, ni ne proteste. Je ne sais faire qu'un seul geste, celui de retourner ma veste, de retourner ma veste. Toujours du bon côté, oh toujours du bon côté. Je retourne mon pantalon. Il y en a qui contestent, qui revendiquent et qui protestent. Moi je ne fais qu'un seul geste, je retourne ma veste, je retourne ma veste, toujours du bon côté.
Travailler sur les cabinets de consulting parce que j'avais traversé de nombreux milieux professionnels, dans le privé, dans le public, dans le milieu associatif, dans des domaines même qui étaient assez proches de la politique, et partout j'avais vu ce profil, on pourrait même dire ce type, au sens balzacien du terme, du consultant. Voilà. Et finalement, je trouvais que le consultant, c'était à notre époque ce qu'avait pu être l'avocat, le notaire chez Balzac. Quoi. Ça disait quelque chose de l'esprit de notre temps. Et puis, je les avais vus sévir. Je les avais vus faire un peu toujours la même chose partout. Et il me semblait qu'ils étaient à la pointe de ce qu'est notre époque. Le consultant, ce n'est pas juste un métier parmi d'autres. C'est le véhicule d'une idéologie et peut-être de l'idéologie qui est la plus répandue ou l'idéologie dominante de notre temps. C'est une idéologie qui a peut-être pour valeur cardinale l'efficacité, la performance, et qui, effectivement, est née sans doute dans les pays anglo-saxons, en Allemagne, voilà, dans des, chez Hayek, chez des gens comme ça, les économistes, et qui a le culte de la performance et de la mesure. Tout doit être chiffrable, computable, c'est le règne des nombres. Et cette logique-là, elle régnait en maître depuis très longtemps dans l'entreprise, elle est passée dans le secteur public, et maintenant au plus haut sommet de l'État. Je veux dire, en 2007, moi, parce que c'est un des sujets du roman aussi, l'assomption de Macron, l'arrivée de cette nouvelle génération, et il me semblait quand même que ça faisait de l'Élysée un peu le comex suprême, que ces valeurs-là, cette manière de travailler-là, ce règne du tableau Excel, arrivait enfin au sommet du pouvoir. Pendant la campagne présidentielle, je pense que ce sujet-là a été traité de trois manières, c'est-à-dire la collusion, genre ils seraient copains, donc ils font appel les uns aux autres. La gabegie, ça coûte un pognon monstrueux, et pour quel résultat? Et puis le problème de la défiscalisation. Donc ça, c'est les problèmes politiques, et je comprends, et c'est important et tout, mais moi, c'était pas ça mon problème. Mon problème, moi, c'est celui de l'idéologie. C'est comment, derrière tout ça, derrière un système qui se vit comme a-idéologique, comme pragmatique, en fait, ça promeut partout des modes de comportement, des outils, des façons de penser, et comment ça infléchit aussi bien les comportements individuels que les politiques publiques. Voilà, c'est ça, moi, qui m'intéresse. C'est-à-dire comment, derrière tout ça, il y a des manières de penser, et qui sont d'autant plus délétères ou dangereuses qu'elles se vivent comme étant par-delà l'idéologie, ni de gauche ni de droite. On est dans le pragmatisme pur. C'est ça qui m'intéresserait, moi, de déconstruire tous ces mécanismes-là. Ça pose des tas de questions, l'usage du consulting et cette pensée-là par rapport à l'action publique. Mais celle qui est la principale, je pense, c'est qu'il y a des tas de domaines de l'action publique qui n'ont rien à voir avec la performance, qui ne peuvent pas être rentables, pour lesquels l'efficacité doit être évaluée avec d'autres choses que les chiffres. L'hôpital, la sécurité, l'assistance pour les gens en difficulté, le grand âge, etc. C'est des choses qui ne marchent pas avec des indicateurs. Et finalement, le consulting a fait rentrer ça dans toutes les têtes, c'est qu'il fallait avoir un retour sur investissement de l'action publique, il fallait tout le temps évaluer sa performance. Donc, il fallait des indicateurs, des tableaux, qu'il fallait de la mesure, etc. Et il y a plein de domaines qui ne se prêtent pas exactement. On avait ça, par exemple, vous vous souvenez peut-être, quand Nicolas Sarkozy était à l'intérieur et qu'il faisait de la politique du chiffre, comme dans la série The Wire. Voilà. C'était déjà ce règne-là. Ce qu'on a vu dans les EHPAD récemment, c'est-à-dire tant de couches par pensionnaire, etc. Ça aussi, il y a quelqu'un à un moment qui a rempli un tableau pour le décider, etc. La démocratie, c'est coûteux, c'est pas performant, ça, c'est pas toujours très efficace, mais c'est une manière quand même d'organiser la vie sociale le plus pacifiquement possible et en ménageant quand même notre humanité. Faut comprendre que si tout devient chiffrable, si nous ne sommes plus que des nombres, ça conduit à des cauchemars.
We'll be right back. Je connais tes cauchemars au plus sombre du soir, quand ils rampent droit sous le voile froid de tes draps de soie, sans préavis, dès que la nuit leur a souri, y a des griffes noires qui se marrent au bord de ton plumard. Elles aiguisent leurs dents grises sur ta nuque, ta chair blanche perruque, et l'odeur de la loi qui colle à tes robes de magistrat. Une lourde porte grince et s'ouvre, derrière en voile de soufre des visages se pressent, s'agglutinent en cercle des visages convexes, balafrés et muets. Une épine à l'échine, tu te sens blêmir, frémir, tu voudrais fuir, courir, mais tes chevilles ont des chaînes et tu trébuches puis te traînes, en couinant comme un goré perdu en pleine forêt. Et t'as à peine le cul au sol qu'une main sale t'attrape au col et te plaque les deux épaules sur un de ces bancs usés d'accusés. Te voilà sur la dalle d'un tribunal peu banal. Tu reconnais tous les jurés, tu peux les revoir en ta mémoire. Tous ces voleurs de poules et de pommes fondront l'arme sous la lame de tes jugements prononcés. Et aujourd'hui c'est jour de fête, c'est à ton tour de comparer. Tu cries pardon, tu cries à l'aide, mais rien n'y fait. Sur un tableau noir d'écolier à la craie on te dessine une petite guillotine. Je connais tes cauchemars, au plus sombre d'un soir, à l'envers de l'histoire, je connais tes cauchemars, je connais tes cauchemars, au plus sombre d'un soir, à l'envers de l'histoire, je connais tes cauchemars, Ce soir la nuit est sombre. Et tout le monde s'est décidé pour te travailler la couenne pendant des plombes et des plombes. C'est quand tu sombres dans les bras de Morphée que tu te prépares à morfler. Car les porcs dans ton genre, tu vas savoir ce qu'on leur fait. Je connais ce cauchemar qui revient chaque nuit. Et quand il rentre par effraction dans ton sommeil, je suis toujours avec lui. Et tu cours encore comme si au lever du soleil t'allais échapper à la mort. En attendant, tu traînes ton surplus de graisse avec lenteur. Putain, tu stresses et tu suintes le pastis et la puanteur. Aux alentours, personne pour entendre ta douleur. Tes appels qui résonnent et on te fait pire que ce que tu faisais pendant les gardes à vue. Comme celui que t'as tabassé pour des gens t'en as lu. D'ici tous ceux à qui t'as passé les fers donnent pas cher de ta chair et vont faire de ta nuit un enfer. Je l'ai promis frère, au menu c'est du commissaire. Et de l'entrée au dessert c'est du Schmitt qu'on nous sert. Et comme bouc émissaire on pouvait pas trouver mieux. Tu peux crier, prier, appeler n'importe quel dieu. Sorcellerie, magie noire et vaudou. Et on fait bouillir la marmite et on danse autour sur une rythmique tribale. Ce soir j'ai l'âme du cannibale et la rage de l'animal qui vise les parties vitales. Comment se porte le commissaire avec les organes à l'air quand on traîne ta carcasse jusqu'au prochain cimetière. Et toutes les sales races assistent à tes gémissements pendant que tu graves ton blase sur ta pierre avec ton sang.
Je connais tes cauchemars,
je connais tes cauchemars,
au plus sombre d'un soir,
au plus sombre d'un soir,
à l'enfer de l'histoire,
à l'enfer de l'histoire.
Je connais tes cauchemars,
je connais tes cauchemars,
je connais tes cauchemars,
je connais tes cauchemars.
Je connais tes cauchemars.
Je connais tes cauchemars.
Au plus sombre d'un soir. À l'envers de l'histoire.
À l'envers de l'histoire.
Je connais tes cauchemars.
Je connais.